Verbin le farouche. Conte napolitain. Chapitre 1. Il y avait une fois à Salerne un jeune bûcheron qui s'appelait Verbin. Orphelin et pauvre, il n'avait point d'amis. Sauvage et taciturne, il ne parlait à personne et personne ne lui parlait. Comme il ne se mêlait point des affaires d'autrui, chacun le tenait pour un sot. On l'avait surnommé le farouche. Jamais titre ne fut mieux mérité. Le matin, quand tout dormait encore dans la ville, il s'en allait à la montagne, la veste et la cognée sur l'épaule. Il vivait seul dans les bois tout le long du jour et ne rentrait qu'à la brume, traînant avec lui quelques méchants fagots dont il achetait son souper. Quand il passait devant la fontaine, où tous les soirs les jeunes filles du quartier allaient emplir leurs cruches et vider leurs gosiers, chacune riait de cette sombre figure et se moquait du pauvre bûcheron. Ni la barbe noire, ni les yeux brillants de Verbin n'effrayaient cette troupe effrontée. C'était à qui provoquerait l'innocent. « Verbin de mon âme !» criait l'une. « Dis un mot, je te donne mon cœur !»« Plaisir de mes yeux !» reprenait l'autre. « Montre-moi la couleur de ces paroles, je suis à toi !»« Verbin, Verbin !» répétait en cœur toutes ces têtes folles. « Qui de nous choisis-tu pour femme ? Est-ce moi ? Est-ce moi ? Qui prends-tu ? » ?»«
La plus bavarde !» répondait le bûcheron en leur montrant le poing. Et chacune de crier aussitôt
« Merci, mon bon Verbin, merci !»
Poursuivi par les éclats de rire, le pauvre sauvage rentrait chez lui avec la grâce d'un sanglier qui fuit devant le chasseur. Une fois sa porte fermée, il soupait d'un morceau de pain et d'un verre d'eau, s'enveloppait dans les lambeaux d'une vieille couverture et se couchait sur la terre battue. Sans souci, sans regret, sans désir, il s'endormait vite et ne rêvait guère. Si le bonheur est de ne rien sentir, le plus heureux des hommes, c'était Verbin.
Chapitre 2.
Un jour qu'il s'était fatigué à ébrécher un vieux buis aussi dur que la pierre, Verbin voulut faire la sieste près d'un étang tout entouré de beaux arbres. À sa grande surprise, il aperçut, étendue sur le gazon, une jeune femme d'une merveilleuse beauté et dont la robe était faite de plumes de cygne. L'inconnu luttait contre un rêve pénible. Son visage était crispé, ses mains s'agitaient, on eût dit qu'elle essayait en vain de secouer le sommeil qui l'oppressait.
« S'il y a du bon sens, dit Verbin, de dormir à midi avec le soleil sur la figure. Toutes les femmes sont folles. »
Il enlaça quelques branches pour en ombrager la tête de l'étrangère et, sur ce berceau, il plaça comme un voile sa veste de travail. Il finissait de tresser le feuillage quand il aperçut dans l'herbe, à deux pas de l'inconnu, « Ah !» dit Verbin, « si petite et déjà si méchante !» Et en deux coups de cognée, il fit du serpent trois morceaux. Les tronçons tressaillaient comme s'il voulait encore atteindre l'étrangère. Le bûcheron les poussa du pied dans l'étang. Ils y tombèrent en frémissant comme un fer rouge qu'on trempe dans l'eau. À ce bruit, la fée s'éveilla et, se levant, les yeux brillants de joie,
« Verbin » s'écria-t-elle, « Verbin !»«
C'est mon nom, je le connais, » répondit le bûcheron. « Il n'y a pas besoin de crier si fort. »«
Quoi, mon ami ?» dit la fée. « Tu ne veux pas que je te remercie du service que tu m'as rendu ? Tu m'as sauvé plus que la vie. »
Je ne vous ai rien sauvé du tout, dit Verbin avec sa grâce ordinaire. Une autre fois, ne vous couchez pas sur l'herbe sans voir s'il y a des serpents. Voilà le conseil que je vous donne. Maintenant, bonsoir. Laissez-moi dormir, je n'ai pas de temps à perdre.
Il s'étendit tout de son long sur l'herbe et ferma les yeux.
Verbin, dit la fée, tu ne demandes rien?
Je vous demande la paix. Quand on ne veut rien, on a ce qu'on veut, on est heureux. Bonsoir. »
Et le vilain se mit à ronfler.
« Pauvre garçon, dit la fée, ton âme est endormie. Mais quoi que tu fasses, je ne serai pas ingrate. Sans toi, j'allais tomber dans les mains d'un génie, mon ennemi cruel. Sans toi, j'aurais été 100 ans couleuvre. Je te dois 100 ans de jeunesse et de beauté. Comment te payer ?
J'y suis, ajouta-t-elle. Quand on a ce qu'on veut, on est heureux, c'est toi qui l'as dit.
Eh bien, mon bon Verbin, tout ce que tu voudras, tout ce que tu souhaiteras, tu l'auras.
Bientôt, je l'espère, tu béniras la fée des eaux. » Elle fit trois ronds en l'air avec sa baguette de coudrier. Puis elle entra dans l'étang d'un pas si léger que l'onde même n'en fut pas ridée. À l'approche de leur reine, les roseaux inclinaient leurs aigrettes, les nénuphars épanouissaient leurs fleurs les plus fraîches, les arbres, le jour, le vent même, tout souriait à la fée, tout semblait s'associer à son bonheur. Une dernière fois, elle leva sa baguette. Aussitôt, pour recevoir leur jeune souveraine, les eaux s'ouvrirent en s'illuminant. On eût dit qu'un rayon de soleil perçait jusqu'au fond de l'abîme. Puis tout rentra dans l'ombre et le silence. On n'entendit plus rien que Zerbin qui ronflait toujours. Chapitre 3. Le soleil commençait à baisser quand le bûcheron se réveilla. Il retourna tranquillement à sa besogne et d'un bras vigoureux, il attaqua le tronc de l'arbre qu'il avait ébréché le matin. La cognée résonnait sur le bois, mais elle ne l'entamait guère. Zerbin suait à grosses gouttes et frappait en vain cet arbre maudit qui défiait tous ses efforts. « Ah » dit-il en regardant sa cognée tout ébréchée. « Quel malheur qu'on n'ait pas inventé un outil qui coupa le bois comme du beurre. J'en voudrais un comme ça. » Il recula de deux pas, fit tourner la cognée sur sa tête et la lança d'une telle force qu'il alla tomber à 10 pieds, les bras en avant, le nez par terre. « Père Bacco ! » s'écria-t-il. « J'ai la berlue. J'ai frappé à côté. » Zerbin fut bientôt rassuré, car au même instant l'arbre tomba, et si près de lui que peu s'en fallut que le pauvre garçon ne fût écrasé. « Voilà un beau coup, s'écria-t-il, et qui avance ma journée. Comme c'est tranché, on dirait d'un trait de scie. Il n'y a pas deux bûcherons pour travailler comme le fils de ma mère. » Sur ce, il rassembla toutes les branches qu'il avait abattues le matin, puis, déliant une corde qu'il avait roulée autour de sa ceinture, il se mit à cheval sur le fagot pour le serrer davantage, et il l'attacha avec un nœud coulant. « À présent, dit-il, il faut traîner cela à la ville. Il est fâcheux que les fagots n'aient pas 4 jambes comme les chevaux. Je m'en irai fièrement à Salerne, et j'y entrerai en caracolant, à la façon d'un beau cavalier qui se promène sans rien faire. Je voudrais me voir comme ça. » À l'instant, voici le fagot qui se soulève et qui se met à trotter d'un pas allongé. Sans s'étonner de rien, le bon Zerbin se laissait emporter par cette monture d'espèces nouvelles, et tout le long du chemin, il prenait en pitié ces pauvres petites gens qui marchaient à pied, faute d'un fagot. Chapitre 4. Au temps dont nous parlons, il y avait une grande place au milieu de Salerne, et sur cette place était le palais du roi. Ce roi, personne ne l'ignore, c'était le fameux Mouche à miel dont l'histoire a immortalisé le nom. Chaque après-midi, on voyait tristement assise au balcon la fille du roi, la princesse Alélie. C'est en vain que les esclaves essayaient de la charmer par leurs chansons, leurs contes ou leurs flatteries. Alélie n'écoutait que sa pensée. Depuis 3 ans, son père voulait la marier à tous les barons du voisinage. Depuis 3 ans, la princesse refusait tous les prétendants. Salerne était sa dot, et elle sentait que c'était sa dot seule qu'on voulait épouser. Sérieuse et tendre, Alélie n'avait pas d'ambition, elle n'était pas coquette, elle ne riait pas pour montrer ses dents, elle savait écouter et ne parlait jamais pour ne rien dire. Cette maladie, si rare chez les femmes, faisait le désespoir des médecins. Alélie était encore plus rêveuse que de coutume quand tout d'un coup déboucha sur la place Zerbin, guidant son fagot avec la majesté d'un César empanaché. À cette vue, les femmes de la princesse furent prises d'un fou rire et comme elles avaient des oranges sous la main, elles se mirent à en jeter au cavalier et de façon si adroite qu'il en reçut 2 en plein visage. « Riez, maudites ! » cria-t-il en les montrant du doigt. Et puissiez-vous rire à vous user les dents jusqu'aux gencives. Voilà ce que vous souhaite Zerbin. » Et voici les 2 femmes qui rient à se tordre, sans que rien les arrête, ni les menaces du bûcheron, ni les ordres de la princesse qui prenait en pitié le pauvre bûcheron. « Bonne petite femme, » dit Zerbin en regardant Alélie, « et si douce et si triste. Moi, je te souhaite du bien. Puisses-tu aimer le premier qui te fera rire et l'épouser par-dessus le marché ?» Sur ce, il prit sa mèche de cheveux et salua la princesse de la façon la plus gracieuse. Règle générale, quand on est à cheval sur un fagot, il ne faut saluer personne, fût-ce une reine. Zerbin l'oublia et mal lui en prit. Pour saluer la princesse, il avait lâché la corde qui retenait les branches en faisceau. Voici le fagot qui s'ouvre et le bon Zerbin qui tombe en arrière, les jambes en l'air, de la façon la plus grotesque et la plus ridicule. Il se releva par une culbute hardie, emportant avec lui la moitié du feuillage, et couronné comme un dieu sylvain, il s'en alla rouler 10 pas plus loin. Quand une personne tombe au risque de se tuer, pourquoi rit-on? Je l'ignore, c'est un mystère que la philosophie n'a pas encore expliqué. Ce que je sais, c'est que tout le monde rit et que la princesse Alélie fit comme tout le monde. Mais aussitôt elle se leva, regarda Zerbin avec des yeux étranges, mit la main sur son cœur, la porta à sa tête et rentra dans le palais, tout agité d'un trouble inconnu. Cependant, Zerbin rassemblait les branches éparses et rentrait chez lui à pied comme un simple fagotier. La prospérité ne l'avait point ébloui, la mauvaise chance ne le troubla pas davantage. La journée était bonne, c'était assez pour lui. Il acheta un beau fromage de buffle, blanc et dur comme le marbre, en coupa une longue tranche et dîna du meilleur appétit. L'innocent ne se doutait guère du mal qu'il avait fait et du désordre qu'il laissait après lui. Chapitre 5. Tandis que ces graves événements se passaient, 4 heures sonnaient à la tour de Salerne. La journée était brûlante, le silence régnait dans les rues. Retiré dans une chambre basse, loin de la chaleur et du bruit, le roi Mouchamiel songeait au bonheur de son peuple. Il dormait. Tout à coup, il s'éveilla en sursaut. 2 bras lui serraient le cou, des larmes brûlantes lui mouillaient le visage. C'était la belle Alélie qui embrassait son père dans un excès de tendresse. « Qu'est cela ? » dit le roi, surpris de ce redoublement d'amour. « Tu m'embrasses et tu pleures ? Ah, fille de ta mère, tu veux me faire faire ta volonté ?»« Tout au contraire, mon bon père, » dit Alélie, « c'est une fille obéissante et qui veut faire ce que vous voulez. Ce genre que vous souhaitez, je l'ai trouvé. Pour vous faire plaisir, je suis prête à lui donner ma main. » « Bon, reprit Mouchamiel, c'est la fin du caprice. Qui épousons-nous ? Le prince de la cave ? Non. C'est donc le comte de Capri ? Le marquis de Sorinthe ? Non. Qui est-ce donc ? Je ne le connais pas, mon bon père. Comment tu ne le connais pas ? Tu l'as vu cependant ? Oui, tout à l'heure, sur la place du château. Il t'a parlé ? « Non, mon père, est-il besoin de parler quand les cœurs s'entendent ?» Mouchamiel fit la grimace, se gratta l'oreille et regardant sa fille entre les 2 yeux. « Au moins, dit-il, c'est un prince ?»« Je ne sais pas, mon père, mais qu'importe ?»« Il importe beaucoup, ma fille, et tu n'entends rien à la politique. Que tu choisisses librement un gendre qui me convienne, c'est à merveille. » Comme roi et comme père, je ne gênerai jamais ta volonté quand cette volonté sera la mienne. Mais autrement, j'ai des devoirs à remplir envers ma famille et mes sujets, et j'entends qu'on fasse ce que je veux. Où se cache ce bel oiseau que tu ne connais pas, qui ne t'a pas parlé et qui t'adore ? Je l'ignore, dit Alélie. Voilà qui est trop fort, s'écria Mouchamiel. C'est pour me conter de pareilles folies que tu viens me prendre des moments qui appartiennent à mon peuple. Holà, chambellan, qu'on appelle les femmes de la princesse et qu'on la reconduise dans ses appartements. » En entendant ces mots, Alélie leva les bras au ciel et se mit à fondre en larmes. Puis elle tomba aux genoux du roi en sanglotant. Au même moment, les 2 femmes entrèrent, toujours riant aux éclats. « Silence, misérable, silence !» s'écria Mouchamiel, indigné de ce manque de respect. Mais plus le roi criait « silence » et plus les 2 femmes riaient, sans souci de l'étiquette. « Garde !» dit le prince hors de lui, « qu'on saisisse ces insolentes et qu'on leur tranche la tête. Je leur apprendrai qu'il n'y a rien de moins plaisant qu'un roi. »« Sire !» dit Alélie en joignant les mains.
Rappelez-vous que vous avez illustré votre règne en abolissant la peine de mort. »
« Tu as raison, ma fille, nous sommes des gens civilisés. Qu'on épargne ces femmes et qu'on se contente de les traiter à la russe avec tous les ménagements voulus. Bâtonnez-les jusqu'à ce qu'elles meurent naturellement. »
« Grâce, mon père, » dit Alélie, « c'est moi, c'est votre fille qui vous en supplie. »
« Pour Dieu, qu'elle ne rit plus et qu'on m'en débarrasse, » dit le bon Mouchamiel. « Emmenez ces pécores, je leur pardonne. Qu'on les enferme dans une cellule jusqu'à ce qu'elles y crèvent de silence et d'ennui. »
« Ah, mon père !» sanglota la pauvre Alélie.
« Allons, dit le roi, qu'on les marie et que ça finisse. »
« Grâce, sire, nous ne rirons plus !» crièrent les deux femmes en tombant à genoux et en ouvrant une bouche où il n'y avait que des gencives. « Que votre majesté nous pardonne et qu'elle nous venge ! Nous sommes victimes d'un art infernal ! Un scélérat nous a ensorcelés !»«
Un sorcier dans mes états ?» dit le roi qui était un esprit fort. « C'est impossible, il n'y en a point puisque je n'y crois pas. »
« Sire, dit l'une des femmes, est-il naturel qu'un fagot trotte comme un cheval de manège et caracole sous la main d'un bûcheron ? Voilà ce que nous venons de voir sur la place du château. »
« Un fagot ? Reprit le roi, cela sent le sorcier. Garde, qu'on saisisse l'homme et son fagot et que l'un portant l'autre, on les brûle tous les deux. Après cela, j'espère qu'on me laissera dormir. »
« Brûler, mon bien-aimé ? S'écria la princesse en remuant les bras comme une illuminée. « Ce noble chevalier, c'est mon époux, c'est mon bien, c'est ma vie. Si on touche à un seul de ses cheveux, je meurs. »
« L'enfer est dans ma maison, » dit le pauvre Mouchamiel. « À quoi me sert-il d'être roi pour ne pouvoir pas même dormir la grasse matinée ? Mais je suis bon de me tourmenter. Qu'on appelle Mistigris. Puisque j'ai un ministre, c'est bien le moins qu'il me dise ce que je pense et qu'il sache ce que je veux. »
Chapitre 6. On annonça le seigneur Mistigris. C'était un petit homme, gros, court, rond, large, qui roulait plus qu'il ne marchait. Des yeux de fouine qui regardaient de tous les côtés à la fois, un front bas, un nez crochu, de grosses joues, trois mentons. Tel est le portrait du célèbre ministre qui faisait le bonheur de Salerne sous le nom du roi Mouchamiel. Il entra, souriant, soufflant, minaudant, en homme qui porte gaiement le pouvoir et ses ennuis.
« Enfin vous voilà, dit le prince. Comment se fait-il qu'il se passe des choses inouïes dans mon empire et que moi, le roi, j'en sois le dernier averti ?»«
Tout est dans l'ordre accoutumé, dit Mistigris d'un ton placide. J'ai là dans les mains les rapports de la police. Le bonheur et la paix règnent dans l'État comme toujours. » Et ouvrant de grands papiers, il lut ce qui suit. Port de Salerne. Tout est tranquille. On n'a pas volé à la douane plus que de coutume. Trois querelles entre matelots, six coups de couteau, cinq entrées à l'hôpital. Rien de nouveau. Ville haute. Octroi doublé. Prospérité et moralité toujours croissantes. Deux femmes mortes de faim, 10 enfants exposés, 3 maris qui ont battu leurs femmes, 10 femmes qui ont battu leurs maris, 30 vols, 2 assassinats, 3 empoisonnements, rien de nouveau.
« Voilà donc tout ce que vous savez, » dit Mouchamiel d'une voix irritée. « Eh bien moi, monsieur, dont ce n'est pas le métier de connaître les affaires d'État, j'en sais davantage. » Un homme à cheval sur un fagot a passé sur la place du château et il a ensorcelé ma fille. La voici qui veut l'épouser.
Sire, dit Mistigris, je n'ignorais pas ce détail. Un ministre, c'est tout. Mais pourquoi fatiguer votre majesté de ces niaiseries? On pendra l'homme et tout sera dit.
Et vous pouvez me dire où est ce misérable?
Sans doute, sire, répondit Mistigris. Un ministre voit tout, entend tout. Et partout.
Eh bien, monsieur, dit le roi, si dans un quart d'heure ce drôle n'est pas ici, vous laisserez le ministère à des gens qui ne se contentent pas de voir, mais qui agissent. Allez.
Mistigris sortit de la chambre, toujours souriant. Mais, une fois dans la salle d'attente, il devint cramoisi comme un homme qui étouffe et fut obligé de prendre le bras du premier ami qu'il rencontra. C'était le préfet de la ville qu'un hasard heureux amenait près de lui.
Mistigri recula de deux pas et prit le magistrat au collet.
« Monsieur, lui dit-il en scandant chacun de ses mots, si dans 10 minutes vous ne m'amenez pas l'homme qui se promène dans Salerne à cheval sur un fagot, je vous casse, entendez-vous ? Je vous casse ! Allez !»
Tout étourdi de cette menace, le préfet courut chez le chef de la police.
« Où est l'homme qui se promène sur un fagot ? Lui dit-il.
« Quel homme ? Demanda le chef de la police.
« Ne raisonnez pas avec votre supérieur, je ne le souffrirai point. En n'arrêtant pas ce scélérat, vous avez manqué à tous vos devoirs. Si dans 5 minutes cet homme n'est pas ici, je vous chasse. Allez !»
Le chef de la police courut au poste du château. Il y trouva des gens qui veillaient à la tranquillité publique en jouant aux dés.
« Drôle ! Leur cria-t-il. « Si, dans 3 minutes, vous ne m'appelez pas l'homme qui se promène à cheval sur un fagot, je vous fais bâtonner comme des galériens. Courez et pas un mot !»
La troupe sortit en blasphémant, tandis que l'habit des sages Mistigri, confiant dans les miracles de la hiérarchie, rentrait tranquillement dans la chambre du roi et remettait sur ses lèvres ce sourire perpétuel qui fait partie de la profession.
Chapitre 7. Deux mots dits par le ministre à l'oreille du roi charmèrent Mouchamiel. L'idée de brûler un sorcier ne lui déplaisait pas. C'était un joli petit événement qui honorerait son règne, une preuve de sagesse qui étonnerait la postérité. Une seule chose gênait le roi, c'était la pauvre Alélie noyée dans les larmes et que ses femmes essayaient en vain d'entraîner dans ses appartements. Mistigri regarda le roi en clignant de l'œil. Puis, s'approchant de la princesse, il lui dit de sa voix la moins criarde. « Madame, il va venir. Il ne faut pas qu'il vous voie pleurer. Au contraire, parez-vous, soyez 2 fois plus belle et que votre vue seule l'assure de son bonheur. »«
Je vous entends, bon Mistigri !» s'écria Alélie. « Merci, mon père, merci »
ajouta-t-elle en se jetant sur les mains du roi qu'elle couvrit de baisers.
« Soyez bénis, 1000 et 1000 fois bénis !»
Elle sortit, ivre de joie, la tête haute, les yeux brillants, et si heureuse, qu'elle arrêta au passage le premier chambellan pour lui annoncer elle-même son mariage.
« Bon chambellan, ajouta-t-elle, il va venir. Faites-lui vous-même les honneurs du palais et soyez sûr que vous n'obligerez pas des ingrats. »
Resté seul avec Mistigri, le roi regarda son ministre d'un air furieux.
« Êtes-vous fou ? Lui dit-il. « Quoi ? Sans me consulter, vous engagez ma parole ? Vous croyez-vous le maître de mon empire pour disposer de ma fille et de moi sans mon aveu ?»«
Bah ! Dit tranquillement Mistigri. Il fallait calmer la princesse, c'était le plus pressé. En politique, on ne s'occupe jamais du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. »
« Et ma parole, reprit le roi, comment voulez-vous maintenant que je la retire sans me parjurer ? Et pourtant, je veux me venger de cet insolent qui m'a volé le cœur de mon enfant. »
« Sire, dit Mistigri, un prince ne retire jamais sa parole, mais il y a plusieurs façons de la tenir. »
« Qu'entendez-vous par là ? Dit Mouchamiel.
« Votre Majesté, reprit le ministre, vient de promettre à sa fille de la marier. » « Nous la marierons, après quoi nous prendrons la loi qui dit « Si un noble qui n'a pas rang de baron ose prétendre à l'amour d'une princesse et de sang royal, il sera traité comme noble, c'est-à-dire décapité. Si le prétendant est un bourgeois, il sera traité comme un bourgeois, c'est-à-dire pendu. Si c'est un vilain, il sera noyé comme un chien. » Vous voyez, sire, que rien n'est plus aisé que d'accorder votre amour paternel et votre justice royale. Nous avons tant de lois à Salerne qu'il y a toujours moyen de s'accommoder avec elles.
Mistigri, dit le roi, vous êtes un coquin.
Sire, dit le gros homme en se rengorgeant, vous me flattez. Je ne suis qu'un politique. On m'a enseigné qu'il y a une grande morale pour les princes et une petite pour les petites gens. J'ai profité de la leçon. C'est ce discernement qui fait le génie des hommes d'État, l'admiration des habiles et le scandale des sots.
Mon bon ami, dit le roi, avec vos phrases en 3 morceaux, vous êtes fatigant comme un éloge académique.
Je ne vous demande pas de mots, mais des actions. Pressez le supplice de cet homme et finissons-en. » Comme il parlait ainsi, la princesse Alélie entra dans la chambre royale. Elle était si belle, il y avait tant de joie dans ses yeux, que le bon Moucha Miel soupira et se prit à désirer que le cavalier du fagot fût un prince, afin qu'on ne le pendît pas. Chapitre 8.
C'est une belle chose que la gloire,
mais elle a ses désagréments. Adieu le plaisir d'être inconnu et de défier la sotte curiosité de la foule. L'entrée triomphale de Zerbin n'était pas achevée, qu'il n'y avait pas un enfant dans Salerne qui ne connût la personne, la vie et la demeure du bûcheron. Aussi les estafiers n'eurent-ils pas grand-peine à trouver l'homme qu'ils cherchaient. Zerbin était à deux genoux dans sa cour, tout occupé à affiler sa fameuse cognée. Il en essayait le tranchant avec l'ongle de son pouce, quand une main s'abattit sur lui, le prit au collet et d'un effort vigoureux le remit sur ses pieds. 10 coups de poing, 20 bourrades dans le dos le poussèrent dans la rue. C'est de cette façon qu'il apprit qu'un ministre s'intéressait à sa personne et que le roi lui-même daignait l'appeler dans son palais. Zerbin était un sage et le sage ne s'étonne de rien. Il enfonça ses deux mains dans sa ceinture et marcha tranquillement sans trop s'émouvoir de la grêle qui tombait sur lui. Cependant, pour être sage, on n'est pas un saint. Un coup de pied reçu dans le mollet lassa la patience du bûcheron. « Doucement, dit-il, un peu de pitié pour le pauvre monde !»« Je crois que le drôle raisonne, dit un de ceux qui le maltraitaient. « Monsieur est douillet, on va prendre des gants pour le mener par la main. » « Je voudrais vous voir à ma place, » dit Zerbin. « Nous verrions si vous ririez. »« Te tairas-tu, drôle ?» dit le chef de la bande en lui décochant un coup de poing à décorner un bœuf. Le coup était mal porté, sans doute, car au lieu d'atteindre Zerbin, il alla droit dans l'œil d'un estafier. Furieux et à moitié aveuglé, le blessé se jeta sur le maladroit qu'il avait frappé et le prit aux cheveux. Les voilà qui se battent. On veut les séparer. Les coups de poing pleuvent à droite, à gauche, en haut, en bas. C'était une mêlée générale. Rien n'y manquait, ni les enfants qui crient, ni les femmes qui pleurent, ni les chiens qui aboient. Il fallut envoyer une patrouille pour établir l'ordre en arrêtant les battants, les battus et les curieux. Zerbin, toujours impassible, s'en allait au château en se promenant, quand sur la grande place, il fut abordé par une file de beaux messieurs en habits brodés et en culottes courtes. C'étaient les valets du roi qui, sous la direction du majordome et du grand chambellan lui-même, venaient au-devant du fiancé qu'attendait la princesse. Comme ils avaient reçu l'ordre d'être polis, chacun d'eux avait le chapeau à la main et le sourire sur les lèvres. Ils saluèrent Zerbin. Le bûcheron, un homme bien élevé, leur rendit leur salut. Nouvelle révérence de la livrée, nouveau salut de Zerbin. Cela se fit 8 ou 10 fois de suite, avec une gravité parfaite. Zerbin se fatigua le premier. Il n'était pas né dans un palais, il n'avait pas les reins souples, l'habitude lui manquait. « Assez » s'écria-t-il, « assez !» Et comme dit la chanson, « Après 3 refus, la chance, après 3 saluts, la danse. Vous ne m'avez que trop salué. » « Dansez maintenant !» Aussitôt, voici les valets qui se mettent à danser en saluant, à saluer en dansant, et qui tous, précédant Zerbin dans un ordre admirable, lui font au château une entrée digne d'un roi. Chapitre 9. Pour se donner une attitude majestueuse, Moucha Miel regardait gravement le bout de son nez. Alélie soupirait, Mistigris taillait des plumes comme un diplomate qui cherche une idée. Les courtisans immobiles et muets avaient l'air de réfléchir. Enfin, la grande porte du salon s'ouvrit. Majordome et valet entrèrent en cadence, dansant une sarabande qui surprit fort la cour. Derrière eux marchait le bûcheron, aussi peu ému des splendeurs royales que s'il était né dans un palais. Cependant, à la vue du roi, il s'arrêta, ôta son chapeau, qu'il tint à 2 mains sur sa poitrine, salua 3 fois en tirant la jambe droite, puis il remit son chapeau sur sa tête, s'assit paisiblement sur un fauteuil et fit danser le bout de son pied. « Mon père !» s'écria la princesse en se jetant au cou du roi. « Le voici, l'époux que vous m'avez donné. Qu'il est beau, qu'il est noble. N'est-ce pas que vous l'aimerez ?»«
Mistigris, » murmura Mouchamiel à demi-étranglé, « interrogez cet homme avec les plus grands ménagements. Songez au repos de ma fille et au mien. Quelle aventure ! Ah, que les pères seraient heureux s'ils n'avaient pas d'enfants !»«
Que votre majesté se rassure, » répondit Mistigris. « L'humanité est mon devoir et mon plaisir. »«
Lève-toi, coquin !» dit-il à Zerbin d'un ton brusque. « Réponds vite si tu veux sauver ta peau. Es-tu un prince déguisé ? Tu te tais, misérable ? Tu es sorcier ?
Pas plus sorcier que toi, mon gros !» répondit Zerbin sans quitter son fauteuil.
« Ah, brigand ! » s'écria le ministre. « Cette dénégation prouve ton crime. Te voilà confondu par ton silence, triple scélérat !»«
Si j'avouais, je serais donc innocent ?» dit Zerbin.
« Sire, dit Mistigris, qui prenait la furie pour l'éloquence, faites justice, purgez vos états, purgez la terre de ce monstre. La mort est trop douce pour un pareil sacripant. »
« Va toujours, dit Zerbin, aboie, mon gros, aboie, mais ne mords pas. »
« Sire, cria Mistigris en soufflant, votre justice et votre humanité sont en présence.
Ouah, ouah, ouah. L'humanité vous ordonne de protéger vos sujets en les délivrant de ce sorcier.
Ouah, ouah, ouah. La justice veut qu'on le pende ou qu'on le brûle.
Ouah, ouah, ouah.
Vous êtes père.
Ouah, ouah, ouah.
Mais vous êtes roi.
Ouah, ouah, ouah.
Et le roi,
ouah, ouah, ouah,
doit effacer le père.
Ouah, ouah, ouah.
Mistigris, dit le roi, vous parlez bien, mais vous avez un tic insupportable. Pas tant d'affectation, concluez.
Sire, reprit le ministre, la mort, la corde, le feu.
Ouah, ouah, ouah.
Tandis que le roi soupirait, Alélie, quittant brusquement son père, alla se mettre auprès de Zerbin.
Ordonnez, sire, dit-elle, voici mon époux, son sort sera le mien.
À ce scandale, toutes les dames de la cour se couvrirent la figure. Mistigris lui-même se crut obligé de rougir.
« Malheureuse !» dit le roi furieux. « En te déshonorant, tu as prononcé ta condamnation. Garde, arrêtez ces deux créatures, qu'on les marie séance tenante. Après cela, confisquez le premier bateau qui se trouvera dans le port, jetez-y ces coupables et qu'on les abandonne à la fureur des flots. »
« Ah, sire !» s'écria Mistigris, tandis qu'on entraînait la princesse et Zerbin. « Vous êtes le plus grand roi du monde. Votre bonté, votre douceur, votre indulgence seront l'exemple et l'étonnement de la postérité. Que ne dira pas demain le journal officiel ? Pour nous, confondus par tant de magnanimité, il ne nous reste qu'à nous taire et à admirer.
« Ma pauvre fille !» s'écria le roi, « que va-t-elle devenir sans son père ?
Garde, saisissez Mistigris et mettez-le aussi sur le bateau. Ce sera pour moi une consolation que de savoir cet habile homme auprès de ma chère Alélie. Et puis, changer de ministre, ce sera toujours une distraction. Dans ma triste situation, j'en ai besoin. Adieu, mon Mistigris !»
Mistigris était resté la bouche ouverte. Il allait reprendre haleine pour maudire les princes et leur ingratitude quand on l'emporta hors du palais. Malgré ses cris, ses menaces, ses prières et ses pleurs, on le jeta sur la barque et bientôt les trois amis se trouvèrent seuls au milieu des flots. Quant au bon roi Mouchamiel, il essuya une larme et s'enferma dans sa chambre basse pour achever une sieste si désagréablement interrompue.
Chapitre 10. La nuit était belle et calme. La lune éclairait de sa blanche clarté la mer et ses sillons tremblants. Le vent soufflait de terre et emportait au loin la barque. Déjà, on apercevait Capri qui se dressait au milieu des flots comme une corbeille de fleurs. Zerbin tenait la barre et murmurait je ne sais quelle chanson plaintive, chant de bûcheron ou de matelot. À ses pieds était assise Alélie, silencieuse mais non pas triste. Elle écoutait son bien-aimé. Le passé, elle l'oubliait.
L'avenir, elle n'y songeait guère. Rester auprès de Zerbin, c'était toute sa vie. Mistigri, moins tendre, était moins philosophe. Inquiet, furieux, il s'agitait comme un ours en sa cage et faisait à Zerbin de beaux discours que le bûcheron n'écoutait pas. Insensible comme toujours, Zerbin penchait la tête. Peu habitué aux harangues officielles, les discours du ministre l'endormaient. « Qu'allons-nous devenir ?» criait Mistigri. « Voyons, affreux sorcier, si tu as quelque vertu, montre-le. Tire-nous d'ici. Fais-toi prince ou roi quelque part et nomme-moi ton premier ministre. Il me faut quelque chose à gouverner. À quoi te sert ta puissance si tu ne fais pas la fortune de tes amis ?»«
J'ai faim, » dit Zerbin en ouvrant la moitié d'un œil.
Alélie se leva aussitôt et chercha autour d'elle.
« Mon ami, dit-elle, que voulez-vous ?»«
Je veux des figues et du raisin, » dit le bûcheron. Mistigri poussa un cri. Un baril de figues et de raisins secs venait de sortir entre ses jambes et l'avait jeté par terre.
« Ah » pensa-t-il en se relevant, « j'ai ton secret, maudit sorcier. Si tu as ce que tu souhaites, ma fortune est faite. Je n'ai pas été ministre pour rien, beau prince. Je te ferai vouloir ce que je voudrais. »
Tandis que Zerbin mangeait ses figues, Mistigri s'approcha de lui, le dos courbé, la face souriante.
« Seigneur Zerbin, dit-il, je viens demander à votre Excellence son incomparable amitié. Peut-être votre Altesse n'a-t-elle pas bien compris tout ce que je cachais de dévouement sous la sévérité affectée de mes paroles. Mais je puis l'assurer que tout était calculé pour brusquer son bonheur. C'est moi seul qui ai hâté son heureux mariage. »
« J'ai faim, » dit Zerbin, « donnez-moi des figues et du raisin. »«
Voici, seigneur, » dit Mistigri avec toute la grâce d'un courtisan. « J'espère que son Excellence sera satisfaite de mes petits services et qu'elle me mettra souvent à même de lui témoigner tout mon zèle. »«
Triple brute, » murmura-t-il tout bas, « tu ne m'entends point. Il faut absolument que je mette Alélie dans mes intérêts. » Plaire aux dames, c'est le grand secret de la politique.
À propos, seigneur Zerbin, reprit-il en souriant, vous oubliez que vous êtes marié de ce soir. Ne serait-il pas convenable de faire un cadeau de noces à votre royale fiancée?
Toi, mon gros, tu m'ennuies, dit Zerbin. Un cadeau de noces, où veux-tu que je le pêche? Au fond de la mer, va demander au poisson, tu me le rapporteras.
À l'instant même, comme si une main invisible l'eût lancé, Mistigri sauta par-dessus le bord et disparut sous les flots. Zerbin se remit à éplucher et à croquer ses raisins, tandis qu'Alélie ne se lassait pas de le regarder.
« Voilà un marsouin qui sort de l'eau, » dit Zerbin. Ce n'était pas un marsouin, c'était le remessager qui, remonté sur les vagues, se débattait au milieu de l'écume. Zerbin prit Mistigri par les cheveux et l'en tira par-dessus bord. Chose étrange, le gros homme avait dans les dents une escarboucle qui brillait comme une étoile au milieu de la nuit. Dès qu'il put respirer, « Voilà, dit-il, le cadeau que le roi des poissons offre à la charmante Alélie. Vous voyez, seigneur Zerbin, que vous avez en moi le plus fidèle et le plus dévoué des esclaves. » Si vous avez jamais un petit ministère à me confier...
J'ai faim, dit Zerbin, donne-moi des figues et du raisin.
Seigneur, reprit Mistigri, ne ferez-vous rien pour la princesse votre femme? Cette barque, exposée à toutes les injures de l'air, n'est pas un séjour digne de sa naissance et de sa beauté.
Assez, Mistigri, dit Alélie, je suis bien ici, je ne demande rien.
« Rappelez-vous, madame, dit l'officieux ministre, que lorsque le prince de Capri vous offrit sa main, il avait envoyé à Salerne un splendide navire en acajou où l'or et l'ivoire brillaient de toutes parts. Et ses matelots vêtus de velours, et ses cordages de soie, et ses salons tout ornés de glace. Voilà ce qu'un petit prince faisait pour vous. Le seigneur Zerbin ne voudra pas rester en arrière, lui si noble, si puissant et si bon. »
« Il est sot, ce bonhomme-là, » dit Zerbin. « Il parle toujours. Je voudrais avoir un bateau comme ça, rien que pour te clore le bec, bavard. Après cela, tu te tairais. » À ce moment, Alélie poussa un cri de surprise et de joie qui fit tressaillir le bûcheron.
Où était-il ?
Sur un magnifique navire qui fendait les vagues avec la grâce d'un cygne aux ailes gonflées. Une tente éclairée par des lampes d'albâtre formait sur le pont un salon richement meublé. Alélie, toujours assise au pied de son époux, le regardait toujours. Mistigri courait après l'équipage et voulait donner des ordres aux matelots. Mais sur cet étrange vaisseau, personne ne parlait. Mistigri en était pour son éloquence et ne pouvait même trouver un mousse à gouverner. Zerbin se leva pour regarder le sillage. Mistigri accourut aussitôt, toujours souriant.
« Votre seigneurie, dit-il, est-elle satisfaite de mes efforts et de mon zèle ?»«
Tais-toi, bavard, dit le bûcheron, je te défends de parler jusqu'à demain matin. Je rêve, laisse-moi dormir. »
Mistigri resta bouche béante en faisant les gestes les plus respectueux. Puis, de désespoir, il descendit dans la salle à manger et se mit à souper sans rien dire. Il but durant 4 heures sans pouvoir se consoler et finit par tomber sous la table. Pendant ce temps, Zerbin rêvait tout à son aise. Alélie, seule, ne dormait pas.
Chapitre 11. On se lasse de tout, même du bonheur, dit un proverbe. À plus forte raison se lasse-t-on d'aller en mer sur un navire où personne ne parle et qui va je ne sais où. Aussi, dès que Mistigri eut repris ses sens et recouvré la parole, n'eut-il d'autre idée que d'amener Zerbin à souhaiter d'être à terre. La chose était difficile. L'adroit courtisan craignait toujours quelques vœux indiscrets qu'il renverrait chez les poissons. Il tremblait par-dessus tout que Zerbin ne regrettât ses bois et sa cognée. Devenait donc le ministre d'un bûcheron. Par bonheur, Zerbin s'était réveillé dans une humeur charmante. Il s'habituait à la princesse et, si brute qu'il fût, cette aimable figure l'égayait. Mistigri voulut saisir l'occasion. Mais hélas, les femmes sont si peu raisonnables quand par hasard elles aiment. Alélie disait à Zerbin combien il serait doux de vivre ensemble, seul, loin du monde et du bruit, dans quelques chaumières tranquilles, au milieu d'un verger, au bord d'un ruisseau. Sans rien comprendre à cette poésie, le bon Zerbin écoutait avec plaisir ces douces paroles qui le berçaient.
Une chaumière, avec des vaches et des poules, disait-il, ce serait joli. Si...
Mistigri se sentit perdu et frappa un grand coup.
Ah, Seigneur, s'écria-t-il, regardez donc là-bas en face de vous, que c'est beau!
Quoi donc, dit la princesse, je ne vois rien.
Ni moi non plus, dit Zerbin en se frottant les yeux.
Est-ce possible? Reprit Mistigri d'un air étonné.
Quoi? Vous ne voyez pas ce palais de marbre qui brille au soleil et ce grand escalier tout garni d'orangers qui, par 100 marches, descend majestueusement au bord de la mer?
Un palais, dit Alélie, pour être entouré de courtisans, d'égoïstes et de valets, je n'en veux pas, fuyons.
Oui, dit Zerbin, une chaumière vaut mieux, on y est plus tranquille.
Ce palais-là ne ressemble à aucun autre, s'écria Mistigri, chez qui la peur excitait l'imagination. Dans cette demeure féerique, il n'y a ni courtisans ni valets. On est servi de façon invisible. On est tout à la fois seul et entouré. Les meubles ont des mains, les murs ont des oreilles.
Ont-ils une langue ? Dit Zerbin.
Oui, reprit Mistigri, ils parlent et disent tout, mais ils se taisent quand on veut.
Eh bien, dit le bûcheron, ils ont plus d'esprit que toi. Je voudrais bien avoir un château comme ça. Où est-il donc ce beau palais ? Je ne le vois pas.
Il est là, devant vous, mon ami, dit la princesse.
Le vaisseau avait couru vers la terre et déjà on jetait l'ancre dans un port où l'eau était assez profonde pour qu'on pût aborder à quai. Le port était à demi entouré par un grand escalier en fer à cheval. Au-dessus de l'escalier, sur une plateforme immense et qui dominait la mer, s'élevait le plus riant palais qu'on ait jamais rêvé. Les 3 amis montèrent gaiement. Mistigri allait en tête tout en soufflant à chaque marche. Arrivé à la grille du château, il voulut sonner. Pas de cloche. Il appela.
Ce fut la grille elle-même qui répondit.
« Que veux-tu, étranger ? » demanda-t-elle.
« Parler au maître de ce logis, » dit Miss Aigri, un peu intriguée de causer pour la première fois avec du fer battu.
« Le maître de ce palais est le seigneur Zerbin, » répondit la grille. « Quand il approchera, j'ouvrirai. »
Zerbin arrivait, donnant le bras à la belle Alélie. La grille s'écarta avec respect et laissa passer les deux époux, suivis de Miss Aigri. Une fois sur la terrasse, Alélie regarda le spectacle splendide qu'elle avait sous les yeux. La mer immense, toute brillante au soleil du matin.
« Qu'il fait bon ici, dit-elle, et qu'on serait bien assis sous cette galerie toute garnie de lauriers en fleurs. »«
Oui, dit Zerbin, mettons-nous par terre. »«
Il n'y a donc pas de fauteuil ici, s'écria Miss Aigri. »
nous voici, crièrent les fauteuils. » Et ils arrivèrent tous, courant l'un après l'autre, aussi vite que leurs quatre pieds le permettaient.
« On déjeunerait bien ici, » dit Miss Aigri.
« Oui, » dit Zerbin, « mais où est la table ?»«
Me voilà !» répondit une voix de contralto. Et une belle table d'acajou, marchant avec la gravité d'une matrone, vint se placer devant les convives.
« C'est charmant, » dit la princesse, « mais où sont les plats ?»
« Nous voici, nous voici !» crièrent des petites voix sèches. Et 30 plats, suivis des assiettes, leurs sœurs, et des couverts, leurs cousins, sans oublier leurs tantes, les salières, se rangèrent en un instant dans un ordre admirable sur la table, qui se couvrit de gibier, de fruits et de fleurs.
« Seigneur Zerbin, dit Miss Aigri, vous voyez ce que je fais pour vous. Tout ceci est mon œuvre. »«
Tu mens !» cria une voix.
Miss Aigri se retourna et ne vit personne.
C'était une colonne de la galerie qui avait parlé.
« Seigneur, dit-il, je crois que personne ne peut m'accuser d'imposture. J'ai toujours dit la vérité. »«
Tu mens !» dit la voix.
« Ce palais est odieux, » pensa Miss Aigri. « Si les murs y disent la vérité, on n'y établira jamais la cour et je ne serai jamais ministre. Il faut changer cela. »«
Seigneur Zerbin, reprit-il, au lieu de vivre ici solitaire, n'aimeriez-vous pas mieux avoir un bon peuple qui paierait de bons petits impôts, qui fournirait de bons petits soldats et qui vous entourerait d'amour et de tendresse ?»«
Roi, dit Zerbin, pourquoi faire ?»«
Mon ami, ne l'écoutez pas, dit la bonne Alélie. Restons ici, nous y sommes si bien tous les deux. »«
Tous les trois, dit Miss Aigri, je suis ici le plus heureux des hommes et près de vous je ne désire rien. »
Tu mens, dit la voix.
Quoi, seigneur, y a-t-il ici quelqu'un qui ose douter de mon dévouement?
Tu mens, reprit l'écho.
Seigneur, ne l'écoutez pas, s'écria Miss Aigri, je vous honore et je vous aime, croyez à mes serments.
Tu mens, reprit la voix impitoyable.
Ah, si tu mens toujours, va-t'en dans la lune, dit Zerbin, c'est le pays des menteurs.
Parole imprudente, car aussitôt Miss Aigri partit en l'air comme une flèche et disparut au-dessus des nuages.
Est-il jamais redescendu sur la terre? On l'ignore, quoique certains chroniqueurs assurent qu'il y a reparu, mais sous un autre nom. Ce qui est certain, c'est qu'on ne l'a jamais revu dans un palais où les murs même disaient la vérité.
Chapitre 12.
Resté seul, Zerbin croisa les bras et regarda la mer, tandis qu'Alélie se laissait aller aux plus douces pensées. Vivre dans une solitude enchantée auprès de ce qu'on aime, n'est-ce pas ce qu'on rêve dans ses plus beaux jours? Pour connaître son nouveau domaine, elle prit le bras de Zerbin. De droite et de gauche, le palais était entouré de belles prairies arrosées d'eau jaillissante. Des chênes verts, des hêtres pourpres, des mélèzes aux fines aiguilles, des platanes aux feuilles orangées, allongeaient leurs grandes ombres sur le gazon. Au milieu du feuillage chantait la fauvette, dont la chanson respirait la joie et le repos. Alélie mit la main sur son cœur et, regardant Zerbin,
« Mon ami, lui dit-elle, êtes-vous heureuse ici et n'avez-vous plus rien à désirer ?»«
Je n'ai jamais rien désiré, dit Zerbin. Qu'ai-je à demander? Demain, je prendrai ma cognée et je travaillerai ferme. Il y a là de beaux bois à abattre.
on peut en tirer plus d'un cent de fagots.
Ah ! Dit Alélie en soupirant, vous ne m'aimez pas.
Vous aimez ? Dit Zerbin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne vous veux pas de mal, assurément, bien au contraire. Voilà un château qui nous vient des nues. Il est à vous. Écrivez à votre père, faites-le venir, ça me fera plaisir. Si je vous ai fait de la peine, ce n'est pas ma faute. Je n'y suis pour rien. Bûcheron, je suis né, bûcheron, je veux mourir. Ça, c'est mon métier et je sais me tenir à ma place. Ne pleurez pas, je ne veux rien dire qui vous afflige.
Ah, Zerbin, s'écria la pauvre Alélie, que vous ai-je fait pour me traiter de la sorte? Je suis donc bien laide et bien méchante pour que vous ne vouliez pas m'aimer?
Vous aimez, ce n'est pas mon affaire. Encore une fois, ne pleurez pas, ça ne sert à rien. Calmez-vous, soyez raisonnable, mon enfant.
Allons, bon, voilà de nouvelles larmes.
Eh bien oui, si ça vous fait plaisir, je veux bien vous aimer.
Je vous aime, Alélie, je vous aime.
La pauvre Alélie, tout éplorée, leva les yeux. Zerbin était transformé. Il y avait dans son regard la tendresse d'un époux, le dévouement d'un homme qui donne à tout jamais son cœur et sa vie. À cette vie, Alélie se mit à pleurer de plus belle, mais en pleurant, elle souriait à Zerbin, qui, de son côté, pour la première fois, se mit à fondre en larmes. Pleurer sans savoir pourquoi, n'est-ce pas le plus grand plaisir de la vie? Et alors parut la fée des eaux, tenant par la main le sage mouche à miel. Le bon roi était bien malheureux depuis qu'il n'avait plus sa fille et son ministre. Il embrassa tendrement ses enfants, leur donna sa bénédiction et leur dit adieu le même jour pour ménager son émotion, sa sensibilité et sa santé. La fée des eaux resta la protectrice des deux époux qui vécurent longtemps dans leur beau palais, heureux d'oublier le monde, plus heureux d'en être oublié. Zerbin resta-t-il sot comme l'était son père? Son âme s'ouvrit-elle à la clarté des cieux? On pouvait d'un seul mot lui dessiller les yeux. Ce mot, le lui dit-on tout bas? C'est un mystère. Je l'ignore et je dois me taire.